VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Une trentaine de chefs d'État africains se réunissent aujourd'hui en sommet à Marrakech, en marge de la COP22. À l'initiative du Maroc, qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement climatique et aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent africain. Alors que la 22e conférence sur le climat bat son plein, ce sommet de l'action africaine, selon ses organisateurs, veut donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement et à la construction de modèles de développement durable sur le continent. Pour les pays du Sud, particulièrement exposés au réchauffement, il s'agit désormais de pouvoir bénéficier d'un soutien financier et technique urgent pour renforcer leurs capacités et s'adapter au changement climatique. En Mauritanie, des centaines de Mauritaniens ont manifesté hier devant la Cour suprême à Nouakchott pour réclamer l'exécution d'un blogueur condamné à mort pour un article sur Internet jugé blasphématoire envers l'islam. Le point avec Nani Talani.
Les manifestants répondaient à l'appel du forum des oulémas et imams. Devant la Cour suprême, ils ont entonné des chants religieux et des slogans contre l'accusé, qualifié d'ennemi de l'islam. La Cour suprême examine le dossier de Cheikh Ould Mohamed Ould Mohamed, détenu depuis 2014 pour un article sur Internet considéré comme blasphématoire. La défense du blogueur a demandé à la Cour d'entendre son repentir. En première instance, l'accusé a été reconnu coupable d'apostasie et condamné à mort le 24 décembre 2014 par la Cour criminelle de Ouagadougou. Ce verdict a été confirmé par la Cour d'appel qui avait requalifié les faits en mécréance, une accusation moins lourde, puis avait renvoyé son dossier devant la Cour suprême. C'est le premier cas de condamnation à mort pour apostasie en Mauritanie où la peine capitale n'a pas été appliquée depuis 1987.
Au Nigeria, l'ONU tire la sonnette d'alarme. 14 millions de personnes ont besoin d'une aide urgente et 75 000 enfants risquent de mourir de faim dans quelques mois. De son côté, Abuja a prévenu d'une famine imminente dans le pays. Anastasie Toudiech.
D'après Peter Lundberg, coordinateur de l'action humanitaire pour les Nations Unies au Nigeria, 14 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont 400 000 enfants dans une situation critique et 75 000 qui risquent de mourir dans les prochains mois. Il a donc lancé un appel aux donateurs à mettre la main à la poche. Pour l'instant, l'ONU n'a recueilli que 180 millions de dollars, alors que les besoins se chiffrent à 485 millions de dollars. Abuja voudrait faire plus pour les millions de déplacés par les attaques de Boko Haram dans l'état de Borno. Mais avec la chute du prix du baril, le géant pétrolier est entré en récession. Le pays manque de devises pour importer sa nourriture. Le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a demandé lundi aux producteurs de céréales nigérians de vendre sur le marché national au lieu d'exporter vers les pays voisins. Selon lui, le Nigeria pourrait être en situation de famine d'ici janvier prochain.
Cameroun, 21 personnes sont mortes dans le pays après avoir consommé de l'eau d'onthol, une boisson locale très alcoolisée et réputée dangereuse. Les autorités des zones concernées ont annoncé l'interdiction de la production et de la commercialisation de ce breuvage, produit et vendu généralement dans le circuit informel. L'eau d'onthol est produit à base de vin de palme, de sucre et d'une écorce d'arbre. Il est bon marché, attirant les petites bourses qui ne peuvent pas s'offrir les bières ou le whisky vendus dans les commerces. Ce n'est pas la première fois que des morts sont enregistrées dans le pays après la consommation de cette boisson. En RDC, le président Joseph Kabila a prononcé hier un discours devant le Parlement. Il a déclaré que son avenir politique est réglé par la Constitution. L'opposition rejette ses propos, selon lesquels l'accord politique issu du dialogue est la seule feuille de route pour conduire le pays aux élections. La coalition des Congolais pour la transition, par exemple, se veut absolument intransigeante. On écoute son président Emery Damien Kalouira.
M. Kabila a décidé de déclarer une guerre ouverte avec le peuple congolais qui, à plus de 98%, ne jure que par le changement de l'administration de M. Kabila. Dans ce discours, M. Kabila insulte les jeunes congolais en les qualifiant d'être des jeunes manipulés. Et le peuple ne lui demande qu'une seule chose, rendre sa démission. Et s'il ne veut pas rendre sa démission, la coalition des Congolais pour la transition et toutes les forces alliées avec lesquelles nous sommes en pleine consultation allons nous donner la mission constitutionnelle en vertu de l'article 64 de la Constitution pour les mettre hors d'état de nuire.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burundi, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a publié un rapport sur la situation dans le pays, un rapport dans lequel elle exhorte la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard. Le document fait état de 1000 morts, 8000 détenus, 300 à 800 personnes portées disparues et plus de 300 000 Burundais contraints à l'exil. Suivons le reportage à Bujumbura de notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
La FIDH et son organisation ITK au Burundi sont un peu plus clairs. L'Union africaine et les Nations unies sont appelées urgemment à déployer une mission d'imposition de la paix pour protéger les populations civiles et relancer le dialogue politique sous la médiation de l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. C'est ce qui est ressorti dans un rapport publié par la FIDH qui parle des crimes qui sont à l'œuvre des forces du régime et du parti CNDD-FDD au pouvoir. Mais le rapport relève également des exactions commises par des groupes armés Forebu, Force républicaine du Burundi, et Red Tabara, la résistance pour un état de droit. Mais pour le parti UIPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, ce rapport vient corroborer leurs analyses qui datent de très longtemps. Tassien Siboman.
Je pense qu'il est grand temps que des preuves contraires soient fournies. Faute de quoi, il est difficilement impensable que des organisations internationales, des experts onusiens soient toujours taxés de menteurs ou de manipulés. Sans être précis quant aux chiffres, nous avons vécu, nous continuons à vivre ces violations massives des droits de l'homme. De toutes les manières, un millier de personnes qui auraient été tuées, ce n'est pas de l'exagération. C'est l'isolement complet du Burundi. À quoi veut-on en arriver ?
Le président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, certains signes sont perceptibles à travers le langage utilisé par quelques dirigeants du parti présidentiel, Zenon Manirakiza.
D'ores et déjà que ces chiffres sont avancés, il appartient au gouvernement de prouver le contraire. Un risque de génocide, le gouvernement ne pourrait pas se dédouaner sans preuve contraire pour les cas déjà cités. Mais l'accord d'Arusha avait prévu l'instauration d'un observatoire de lutte et de prévention contre le génocide. Cet observatoire n'a pas été mis en place. Est-ce une omission involontaire ou volontaire?
Le porte-parole du gouvernement, Philippe Nzebonariba, n'était pas disponible quand nous avons voulu connaître sa réaction. Mais le porte-parole a joint du président burundais Jean-Claude Ndenzako affirme que ces organisations sont continuellement manipulées par l'opposition et rien d'étonnant quand tel rapport arrive au moment où la paix est totale sur toute l'étendue de la République du Burundi. Mais ces organisations ne pourront jamais aller à l'encontre de la volonté du peuple, selon toujours le porte-parole adjoint du président burundais. Pour la FIDH, le régime de Bujumbura s'est lancé dans une fuite en avant criminelle pour conserver le pouvoir, selon le président de la FIDH, Dimitris Christopoulos. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Politique aux États-Unis maintenant, la transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump s'accélère. Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont rencontrés hier à New York pour discuter des candidats au poste clé de leur future administration. Jean-Roger Bion.
Messieurs Trump et Pence, qui assumeront le pouvoir le 20 janvier, ont plus de 4000 emplois à pourvoir. Mais pour l'heure, l'accent est mis sur les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, ministre de la Justice et secrétaire à la Sécurité intérieure. Il s'agit là de ministères qui seront en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Mais aucune annonce n'a été faite à la fin des consultations entre le président élu et son numéro 2. Selon certains de leurs collaborateurs, Rudy Giuliani, âgé de 72 ans pour être nommé secrétaire d'État, ce farouche partisan de Trump n'a aucune expérience en politique étrangère, fait-on remarquer. Mais Giuliani s'est rendu célèbre il y a plus d'une décennie quand il était maire de New York lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il est devenu depuis un symbole de la détermination des États-Unis à défaire le terrorisme islamiste. Serait également sur la liste John Bolton, ancien ambassadeur de George W. Bush à l'ONU. Ce faucon républicain était, pour rappel, un chaud partisan de l'intervention américaine en Irak. Trump a toujours soutenu, lui, qu'il était contre.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.